Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 19h21, on est toujours en direct Europe Soir et on ouvre maintenant le grand débat du Club des Idées comme chaque soir. 17 ans après, l'énigme de la disparition de la petite Estelle Mouzin est-elle enfin en passe d'être résolue? Le tueur en série Michel Fourniret a à nouveau été auditionné cette semaine. Sa femme a finalement avoué qu'il était responsable de sa mort. Il l'a d'ailleurs lui-même avoué du bout des lèvres. L'occasion de nous arrêter sur ces grandes affaires qui ont marqué la France. Patrick Henry, Xavier Dupont de Ligonnès, l'affaire du petit Grégory. Pourquoi ces faits divers fascinent-ils autant? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Patrick Avran, psychanalyste et écrivain. Vous êtes l'auteur, monsieur, de plusieurs ouvrages sur cette question de la psychologie des faits divers, et notamment Les faits divers, une psychanalyse. C'est sorti en 2018. Bonsoir.
Bonsoir.
Pierre Boisson, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Society, co-auteur d'une grande enquête remarquable sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui a passionné les Français cet été. Bienvenue à vous. Et Jean-Marc Bloch, commissaire honoraire de police, ancien chef du service régional de la police judiciaire de Versailles, auteur de Des deux côtés du miroir, itinéraire d'un flic pas comme les autres. On imagine que ce flic, c'est vous ?
Ah oui, c'est
aux vrai. Éditions Le Cherche Midi, c'est sorti en mars 2015. Alors on va commencer par vous, Jean-Marc Bloch. Vous avez justement, je crois, participé à l'enquête sur l'affaire Estelle Mouzin. Comment d'abord avez-vous réagi quand vous avez appris ces aveux de Monique Olivier sur la culpabilité de son mari ?
Bah écoutez, ça a été quasiment un soulagement que de savoir que l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin était vraisemblablement identifié, que c'était lui, que c'était pas un autre, et qu'il n'y avait plus personne d'autre dans la nature qui courait. C'est quelque part, bien sûr, une satisfaction, mais on considère quand même que policièrement et judiciairement, quelque part, c'est un échec. Ça a été trop long.
Pourquoi un échec ?
Parce que ça a été très long. 17 ans, ouais. C'est très très long.
Est-ce qu'on a la certitude aujourd'hui que c'est bien lui l'auteur du crime, Michel Fourniret ?
Ben, on aura la certitude que c'est lui quand il sera jugé. Parce qu'il n'y a que le jugement qui peut dire si quelqu'un est coupable ou innocent.
Bien sûr. Michel Fourniret, c'est l'ogre des Ardennes, on le rappelle. 11 crimes avoués, des disparitions non résolues pour lesquelles il est encore suspecté. Il aurait sévi entre 1967 et son arrestation en 2003, partout en France et même ailleurs, proche des frontières, je crois en Belgique notamment. Et c'est en mars dernier qu'il fait ses premiers aveux. Il n'a toujours pas dit où se trouvait le corps. Est-ce que d'abord, ça fait partie... je me tourne vers vous, Pierre Boisson. Je me tourne vers vous, non, Pierre Boisson. On vous entendra après. Patrick Avran, vous êtes psychanalyste et écrivain. Je me tourne vers vous. Est-ce que ça fait partie de la psychologie de ces tueurs ? Garder la maîtrise des horloges.
Sans doute qu'il y a un souci de maîtrise. Il y a un souci de maîtrise qui fait partie de toutes les personnes qui sont emportées malgré elles dans quelque chose qui les dépasse. Mais vous venez d'employer une formule qui montre bien de quoi il est question.
Laquelle?
Vous avez parlé de l'ogre des Ardennes.
L'ogre des Ardennes.
On a toujours affaire dans ces histoires-là à des contes aussi. Des contes qui sont sinistres parfois. Mais ça renvoie chez nous à quelque chose de très profond. Il est question de ce que nous n'arrivons pas nous-mêmes à maîtriser. Et nous avons le sentiment que d'autres ont dépassé. Il y a ce dépassement que l'on trouve chez les autres.
C'est ce qui suscite une forme de fascination aussi ?
Ça suscite la fascination de, on peut dire, qu'est-ce que la réalité est toujours dépassée par l'imaginaire.
Oui.
La fascination que nous avons de ce contre quoi nous passons notre temps à lutter.
Alors ce rebondissement, on le loue aussi à une femme, la juge Kéris. C'est elle qui a relancé l'affaire. Pourquoi la police et les enquêteurs étaient passés à côté, Jean-Marc Bloch ?
Parce que dans ce type d'affaires, on utilise des méthodes tout à fait classiques, c'est-à-dire qu'on part d'une victime pour essayer d'aller vers un auteur. Or, dans les histoires de crimes en série, il n'y a pas de tueur en série, il n'y a pas de lien préexistant entre la victime et son auteur, et l'auteur du meurtre. C'est deux destins qui se croisent par hasard. Et on peut travailler le plus souvent autant qu'on veut sur la victime, on n'arrivera pas vers l'auteur. Or, notre système policier et judiciaire est fait de telle manière qu'on est saisi en fonction du lieu où a été commis le crime. Alors, peu importe le lieu dans ce type d'affaires, la personne intéressante, là, c'était Michel Fourniret. Il ne faut pas travailler sur les crimes de manière éparpillée. Il ne faut pas que la gendarmerie de Vierzon, la police judiciaire de Paris, etc., travaille chacun de son côté.
Oui.
Il faut que ça soit centralisé. Et c'est grâce à ça que ça a marché. C'est en travaillant sur l'auteur, c'est en travaillant sur Michel Fourniret et en remontant son itinéraire qu'on arrivera à établir tout ce qu'il a commis.
C'est une affaire que vous avez suivie, Pierre Boisson ?
Comme spectateur.
Et vous avez, vous aussi, vous êtes donc l'auteur, le co-auteur de cette enquête remarquable, on va en parler, sortie dans Society, sur Xavier Dupont de Ligonnès, sur la traque, sur la psychologie des personnages, force de détail aussi, c'est ça qui fait la force du récit. Est-ce que vous avez, comme tout à chacun, une forme de fascination pour ces grandes affaires ?
pas une fascination, parce que je pense que le terme est un peu est mal choisi quand on parle de fascination.
Moi, il est un peu malsain, c'est vrai.
Il est un peu malsain. Moi, j'ai jamais eu de fascination, en tout cas pour les auteurs de ces crimes, et sans doute pas pour Xavier Dupont de Ligonnès quand on a travaillé dessus. Après, il y a un intérêt, il y a une intrigue, parce qu'effectivement, il y a des mystères et on a envie d'avoir des résolutions. Sur l'affaire Estelle Mouzin, on avait envie de trouver non seulement l'assassin, mais aussi le corps.
Ça fait 17 ans que la petite fille a disparu.
Vous avez mentionné l'affaire Grégory, c'est la même chose en fait. L'affaire Grégory, on connaît plein de choses, ouais. Mais on n'a jamais encore déterminé le coupable ou tous les coupables.
L'un des avocats de Michel Fourniret, maître Didier Seban, déclarait cette semaine « En France, on ne sait pas enquêter sur les tueurs en série ». Est-ce que c'est vrai, Jean-Marc Bloch ?
Je pense que c'est relativement vrai. On a mis du temps à accepter d'abord l'existence de tueurs en série. Ça a été difficile pour nous. Au début, quand j'étais jeune policier, c'était un truc américain, c'était pas français. Il n'y en avait pas en France, ce qui est faux. On s'est aperçu grâce à l'ADN qu'il y en avait. Le grêlé est un cas type de tueur en série qui a été découvert grâce à l'ADN.
Je crois que l'étude des tueurs en série en tant que tel dans les services de police, ça remonte aux années 70. C'est le FBI qui lance une première unité pour travailler sur la psychologie des criminels.
C'est les Américains, effectivement, qui ont commencé à travailler sur les tueurs en série. Nous, on appelle ça des tueurs réitérants.
Et en France, on ne sait toujours pas les traquer, ces gens-là.
Notre système, mais pas, je ne crois pas qu'il soit adapté à ça. On a centralisé les choses pour ce qui concerne le terrorisme, pour la grande délinquance financière, mais pas pour les tueurs en série. On n'a pas de service. Il y a quelques. Alors, si vous voulez, il y a l'OCRVP qui centralise un certain nombre d'affaires, mais pas toutes, et qui n'est pas saisi systématiquement. Il faut réellement un service central et un seul juge qui soit saisi de l'ensemble des affaires.
Alors, on se retrouve dans quelques secondes et on continuera de parler de cette, non pas fascination, mais de ces grandes affaires, de ces faits divers qui passionnent d'une certaine manière la France. On s'interrogera notamment sur les raisons de cette fascination, oui, d'une certaine manière, avec vous notamment, et sur la psychologie qu'il y a derrière. Ce que ça raconte sur notre société. Était aussi à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Toujours en direct dans le grand débat du Club des Idées à 19h30 dans le studio d'Europe Soir avec Patrick Avram, psychanalyste et écrivain, Pierre Boisson, rédacteur en chef adjoint de Society, et Jean-Marc Bloch, commissaire honoraire de police et ancien chef du service régional de la police judiciaire de Versailles. Alors vous entendez cette petite musique, c'est une musique que connaissent bien les Français, Faites entrer l'accusé, c'est une émission mythique sur les faits divers. Et on s'est amusé à mettre ces quelques notes de musique parce qu'évidemment, ça va dans ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, cette forme de fascination qu'il y a aujourd'hui en France depuis quelques années, des Français, des Françaises, pour ces grandes affaires. Alors, on évoquait tout à l'heure l'affaire Estelle Mouzin, l'affaire Michel Fourniret. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette affaire, entre Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, entre Francis Holmes, entre Grégory et entre Xavier Dupont de Ligonnès ? Qui veut répondre ? Jean-Marc Bloch.
Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est à mettre à part. Ce n'est pas un tueur en série à proprement parler.
Un tueur en série, mais il y a une forme de fascination.
Alors, la forme de fascination, elle existe. Elle existe pourquoi ? Parce que Xavier Dupont de Ligonnès, ça peut être tout le monde, sa famille, ça peut être n'importe quelle famille. C'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Et d'un seul coup, on plonge dans l'extraordinaire.
Oui.
C'est une famille lisse, normale, sans aspérité. Il n'y a rien d'apparent. Tout va bien, la vie est belle. Et d'un seul coup, tout bascule. En fait, il n'y a rien qui va. Il y a une face cachée énorme.
Écoutez le voisin de Xavier Dupont de Ligonnès pendant l'enquête.
Moi, je me souviens quand on le croisait dans le quartier, on avait nos enfants dans la même école, sa femme, très sympa. Moi, je discutais de temps en temps avec lui. Il me dit, où es-tu, Xavier ?
Est-ce qu'il est vivant ? On est attentif à ce que ça va donner.
Qu'est-ce qui fait qu'une affaire devient une grande affaire qui passionne la France, Patrick Avran ?
Je pense que c'est d'abord le travail des journalistes de trouver et de trouver ce qui intéresse. Ce n'est pas une fabrication. L'effet divers, je ne pense pas que ce soit une fascination. Je pense que c'est un intérêt profond qu'il y a depuis toujours. Ce qu'on appelle fait divers à proprement parler, c'est né avec une affaire qui s'appelle l'affaire Troppmann, qui est à la fin du 19e siècle, où il s'est passé exactement la même chose que ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire le petit journal a multiplié par 10, voire 100, je ne sais plus, ses ventes, parce qu'on a retrouvé une femme enceinte et ses enfants enterrés dans un champ. Après, on a retrouvé plus tard son mari, après qu'on ait pensé que ce soit lui qui a été l'assassin. Ce qui est le propre des faits divers comme ceux-là qui présentent un intérêt très larges et qui sont suivis, c'est d'abord qu'il y a la disparition d'enfants.
C'est ce que j'allais vous dire. Il y a le mystère, il y a l'émotion aussi collective autour de la victime, surtout si cette victime est un jeune enfant ou une jeune fille. Mais c'est vrai que cette fascination, elle n'est pas si nouvelle. Déjà au 19e siècle, les faits criminels intéressaient beaucoup le public. Les procès étaient bondés, les exécutions en place publique rassemblaient des milliers de gens. Et puis on se souvient de l'affaire de Jack l'Éventreur, ça passionnait l'Angleterre. Donc ça n'est pas nouveau, cette fascination, ça a toujours été.
Ah, c'est... On raconte que les nobles romains payaient des esclaves pour aller écouter ce qu'ils racontaient afin qu'on puisse leur rapporter les faits divers de la ville. Mais Montaigne et la marquise de Sévigné, c'est rempli de faits divers.
Oui.
C'est devenu du fait divers au sens où on l'entend aujourd'hui, à partir du moment où la presse s'est développée, c'est-à-dire où ça a pu être répandu et où tout le monde a pu en prendre connaissance.
Alors Pierre Boisson, vous êtes donc rédacteur en chef adjoint de Society, co-auteur d'une grande enquête, je le disais, sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui a passionné les Français cet été. D'abord quelques chiffres, je crois que vous avez vendu combien ? 450 000 exemplaires, c'était en deux volets.
Voilà, c'était en deux parties. On a dû réimprimer à trois reprises le magazine qui était épuisé partout en France. Et aujourd'hui, on en a diffusé en circulation 450 000.
Normalement ?
Contre 80 000 normalement. Ah oui. Et on espère en vendre le plus possible, mais autour de 350 000.
Donc ça fait vendre l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, pour parler clair.
Ça fait vendre parce que, mais on est les premiers surpris. Nous, on pensait effectivement qu'il y avait un intérêt, mais que des gens s'arrachent un magazine, ou c'est un article de 77 pages, c'est quand même très rare dans la presse,
oui.
Divisé en deux parties.
4 ans d'enquête, c'est ça ?
4 ans d'enquête, dont les 6 derniers mois, 100% du temps,
avec
4
journalistes.
4 journalistes. On a énormément travaillé. On a écrit ça quasiment comme une série, en fait. Comme une...
Ouais, ça se lit super bien. C'est formidable parce qu'en fait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une enquête au long cours, qui est remarquable, en deux volets, donc remarquable, car vous analysez par le menu la psychologie, le parcours de chacun des protagonistes de l'affaire, et c'est ça qui est très fort, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Marc Bloch, vous me disiez pendant la pause que vous aviez lu les deux volets, avec une minutie remarquable.
Et on est dans le détail.
On est dans le détail.
Dans la description. Alors, c'est l'avantage de la presse écrite, et notamment du magazine par rapport à la télé ou à la radio. À la télé, on est très calibré. Dans l'émission qu'on fait, Non élucidé, c'est 90 minutes. On ne peut pas en sortir, quelle que soit l'importance de l'affaire. Alors que la presse écrite, telle qu'un magazine, peut s'adapter à l'importance de l'affaire. Et c'est vrai que cette affaire est une affaire parfaitement exceptionnelle.
Alors, la question, Pierre Boisson, que tout le monde se pose, après 4 ans d'enquête, quelle est votre conviction ? Est-ce qu'il se cache quelque part, Xavier Dupont de Ligonnès, ou il s'est suicidé et on n'a pas retrouvé le corps ?
Alors, c'est effectivement une question que tout le monde se pose et qui n'est pas la question à laquelle on a essayé de répondre.
Mais quand même. On a tous une forme d'intuition ou de conviction. D'intuition, je ne sais pas, mais en tout cas de conviction à la fin quand on referme le deuxième volet.
Si vous interrogez les enquêteurs qui ont travaillé là-dessus, ben, en fait, moi, la mienne, ça a surtout été de ne pas faire des supputations, des théories ou des hypothèses. Parce que c'est une affaire qui, justement, a donné naissance à énormément de théories. Nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est donner tous les faits à nos lecteurs pour qu'eux puissent se faire ensuite cette conviction personnelle, basée sur des faits réels. Si vous me demandez la mienne, moi, je pense qu'il est toujours vivant. Mais je ne veux pas l'écrire ou l'évoquer parce que c'est seulement une théorie.
Jean-Marc Bloch, votre conviction à vous ?
Pour moi, il est vivant. Et il doit être vivant.
Pourquoi ?
Il est vivant parce que, d'abord... Il n'a pas prémédité tout ça, il n'a pas fait ça de manière aussi minutieuse pour se suicider ensuite. Il a une trop haute idée de lui-même pour se suicider. Et puis, il faut qu'il soit vivant.
Et puis, l'un de ses proches, hein, parce qu'on suit aussi la psychologie de ses proches qui permet de mieux cerner l'environnement. Et puis, le personnage qui est en fait beaucoup plus trouble que ce qu'on a raconté dans les médias traditionnels. Et il y a un de ses proches qui dit « C'est pas possible, il n'a pas pu se suicider, sinon il l'aurait fait avec sa famille dans sa maison. » Jean-Marc Bloch.
C'est très vraisemblable, c'est ce qui se passe en général dans les cas similaires. Le suicide est quasiment concomitant au meurtre de toute la famille.
Et alors, comment il fait ? Et où il est, s'il est toujours vivant, Xavier Dupont de Ligonnès ?
C'est possible de disparaître. On peut très bien, quand c'est prévu,
avec les moyens de recherche aujourd'hui,
oui, absolument.
On peut
avoir
échappé à la police.
D'autres papiers que les siens, des vrais faux papiers, c'est possible.
Moi, je crois qu'on trouvait toujours tout le monde.
Et il peut tout à fait se trouver dans un pays où, ma foi, moins policé, moins sophistiqué que le nôtre. Et puis, il faut qu'il soit vivant. Parce que s'il était mort, il serait innocent. Parce qu'il ne sera jamais jugé. Donc il faut absolument que la justice parte du fait qu'il est vivant. S'il venait à mourir demain de mort accidentelle, il mourra innocent, cet homme-là. Donc il est vivant. Il faut chercher un vivant, il ne faut pas chercher un mort.
Oui, Patrick Avran, pourquoi cette affaire, ce fait divers, terrible, sordide, a autant fasciné et continue ? Je crois que ça fera 10 ans en avril, c'est ça ?
Tout à fait.
10 ans au mois d'avril prochain. Et 10 ans après, on en parle encore. Souvenez-vous de ce qui s'est passé l'été dernier. On a cru le retrouver. Oui. La terre entière s'est affolée. Les médias n'ont parlé que de ça. Bon, C'était un...
C'est-à-dire qu'on l'attend, effectivement. Ça fait partie des faits divers qui sont des vrais romans feuilletons, et ce sont des vrais romans feuilletons, et en même temps, ça fait partie, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de ces personnes qui pourraient être nous-mêmes notre voisin. Je viens d'écrire un livre sur les maisons.
Oui.
Eh bien, la maison de Xavier de Nigonès, comme la maison du petit Grégory, nous pourrions y habiter. C'est pas un château, ce n'est pas le palais de Barbe Bleue. Et c'est aussi ça qui nous... comme je dis, pas qui nous fascine, mais qui nous intéresse. C'est de voir la vie, une image sombre de quelqu'un qui nous ressemble. Et il y a cette présence, et je pense qu'il est vivant, j'en sais rien, là je n'ai strictement aucune idée, mais je pense qu'il est vivant dans le cœur de chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut effectivement pas continuer à s'intéresser à cette histoire tant qu'on n'a pas la fin. Hein. Et il est vivant pour cela. Qu'il soit mort ou vivant, je n'en sais rien, mais en tout cas il y a cette vie-là.
Hein. Pierre Boisson, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, interpellé pendant ces 4 ans d'enquête ?
Beaucoup de choses, mais vous parliez tout à l'heure des détails. Et effectivement, nous, dans le récit de l'affaire, on a voulu marquer le plus possible ces détails parce que c'est au fond, je trouve, ce qui impacte le plus notre imaginaire et nos récits. Un détail, par exemple, moi, m'a beaucoup marqué, c'est que dans la nuit, la dernière nuit avant de tuer son dernier enfant, parce qu'il ne tue pas sa famille le même soir, il va dans un supermarché et on se rend compte que il achète du melon, du jambon cru, du roquefort et un steak. Et là, on comprend qu'en fait, il s'est préparé un menu. Il accompagne ça d'une bonne bouteille de Bourgogne. Et l'image que ça crée dans la tête du lecteur, dans notre imaginaire, est terrible.
Déterminé quand même.
Et froid. La froideur de calculer un menu avant d'aller tuer son dernier enfant qui est terrible. Moi, ça m'a beaucoup marqué, par exemple, cette
image. Et puis, il y a un détail qui est aussi fascinant. On parlait de la traque tout à l'heure et du fait que peut-être il est là, quelque part, toujours vivant. Vous dites que la police de France et de Navarre, les enquêteurs l'ont évidemment pourchassé, qu'ils prennent au sérieux toutes les pistes, qu'ils leur remontent du terrain, tous les signalements. Et il y a, une fois, un homme qui ressemble à Xavier Dupont de Ligonnès, assez sérieusement. Il est signalé par plusieurs personnes dans une station-service. On le suit avec les caméras de vidéosurveillance et on perd sa trace dans une gare et vous dites, il achète un ticket à 1,30€ et on ne le reverra plus jamais. Et là, on est pris comme d'un espèce de vertige, voyez ? Et on se dit, peut-être c'était lui. Qu'avez-vous pensé en écrivant et en découvrant tout ça ?
C'est terrible parce qu'à plein de moments dans cette enquête, Xavier Dupont de Ligonnès semble être là et puis s'évanouit au dernier moment. Et les enquêteurs pensent avoir trouvé sa trace ou avoir trouvé un suspect de complicité. Ils pensent être enfin arrivés au bout de cette enquête terrible qui dure des années. Et puis, au dernier moment, tout s'écroule et il faut recommencer à monter, à pousser le rocher en haut de la montagne. C'est terrible psychologiquement et c'est aussi terrible pour les gens qui attendent une réponse parce qu'effectivement, on a besoin de juger Xavier Dupont de Ligonnès.
Bien, on se retrouve dans quelques secondes, 19h41, on poursuit le grand débat du Club des Idées et on parlera d'autres affaires, l'affaire du petit Grégory notamment, qui fascine également et qui a donné lieu à une série à succès sur Netflix. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h42, on est toujours dans le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on frémit un peu à l'antenne d'Europe Soir, puisqu'on parle des faits divers qui fascinent. L'affaire Estelle Mouzin, l'affaire Patrick Henry, Xavier Dupont de Ligonnès, l'affaire du petit Grégory, on va l'aborder dans quelques instants. On est toujours en direct avec Patrick Avran, psychanalyste et écrivain, Pierre Boisson, rédacteur en chef adjoint de Society, et Jean-Marc Bloch, commissaire honoraire de police, ancien chef du service régional de la police judiciaire de Versailles. Alors, il y avait une question que j'ai pas eu le temps de vous poser juste avant la coupure publicitaire. Patrick Avran, peut-être pour vous, psychanalyste et écrivain, vous allez pouvoir nous éclairer sur la psychologie de ces hommes, ces tueurs au sang-froid. Ont-ils une psychologie différente de tout à chacun et y a-t-il un point de convergence entre tous ces tueurs ?
C'est difficile. Je ne peux pas vous répondre en disant... parce qu'à ce moment-là, ça serait déjà réglé. Hein. Il suffirait de faire le tri, les assassins d'un côté, les bons... Non, je pense que c'est difficile de faire des généralités là-dessus. Ce que l'on rencontre quand même, par exemple, dans l'affaire Xavier de Ligonnès, qui me semble, par certains côtés, ressembler à l'affaire Jean-Claude Roman, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans l'obligation de se construire un personnage pour vivre, comme si c'était des acteurs qui ne pouvaient pas quitter la scène sans quitter leur personnage. Et c'est ce que l'on trouve, c'est ce qu'on a trouvé. Enfin, Jean-Claude Roman, on connaît très bien son histoire. Par certains côtés, j'ai l'impression que l'affaire que Xavier Ligonès, ça ressemble. Mais je n'en sais strictement rien, ce sont des hypothèses.
Alors, il y a aussi l'affaire du petit Grégory qui a évidemment longtemps passionné la France et qui a donné lieu, il y a peu, à une série à succès sur Netflix. Je vous propose, pour se replonger dans l'ambiance de l'époque, d'écouter l'avocat de la famille Villemain.
Je crois, voyez-vous, que tout ce qui a été déballé sur la place publique, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit sur les premières pages de grands journaux, a joué un rôle. Et tout cela devrait faire réfléchir tous ceux qui participent à l'œuvre de justice.
C'est intéressant ce qu'il dit, Maître Henri Garraud, Jean-Marc Bloch, parce que la presse joue aussi un rôle particulier dans cet emballement et dans cette fascination.
Alors, en ce qui concerne l'affaire du petit Grégory, comme on l'appelle, c'est vrai que la presse a eu un rôle assez extraordinaire et néfaste quelque
part. Et néfaste,
puisque
oui.
Tout le monde s'est marché sur les pieds. Les journalistes aller interroger les gens avant même que les gendarmes ne l'aient fait. Les journalistes ont donné des PV, des PV d'audition aux gens. C'est ce qui a poussé Villemain à tuer Laroche. Hein. C'est en lisant le PV de déclaration de Muriel Boll qu'il a tué Laroche. Il y a vraiment un empiètement, une confusion des rôles terrible. Avec
et
un
puis
juge
les médias arrivaient à orienter l'enquête.
Absolument.
Par le biais de l'opinion publique
avec
aussi.
Avec un juge d'instruction qui fait des déclarations publiques sur les marches du palais de justice, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. L'affaire Grégory, c'est le type même de ce qu'on devrait apprendre dans toutes les écoles de journalistes, de police et de magistrats. C'est l'exemple type de tout ce qu'il ne faut pas faire. Toutes les erreurs sont accumulées dans cette
Pierre
affaire.
Boisson.
Tout à fait. Nous, quand on a travaillé, un des points très importants qu'on a suivi, c'est de ne jamais entraver l'enquête de police. On ne se met pas à la place des enquêteurs. On mène une enquête, mais on n'est pas des policiers. Et on n'est pas non plus des juges. Donc c'est important de garder ces frontières très imperméables.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Patrick Avran, dans toutes ces affaires, l'affaire Guy Georges aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais qui retrace la traque du tueur de l'Est parisien, l'affaire SK1. Tiens, justement, on a retrouvé l'annonce le jour de l'arrestation de Guy Georges dans les archives européennes, c'est Karim Hassen. C'était le 26 mars 1998, je vous propose de l'écouter.
Le tueur en série de l'Est parisien, cet homme qui était recherché activement, a été interpellé peu avant 13h au métro Blanche à Paris dans le 18e arrondissement par des policiers en patrouille qui avaient sa photo.
Voilà, là aussi une forme de fascination, on avait suivi la traque partout dans Paris, c'était une femme, Monteil, à l'époque, qui était parvenue à régler l'affaire et à se retrouver face à face avec lui et qui avait obtenu, je crois, Jean-Marc Bloch, je pars sous votre contrôle, les avus.
Absolument, il avait, pendant la garde à vue, il a reconnu les 8 homicides qu'il a commis.
Alors Patrick Avran, quel est le point de convergence là encore? Tout à l'heure, je vous parlais de la fascination des Français et du public. Est-ce qu'il y a une forme de voyeurisme, un côté un peu malsain dans notre amour pour ces grandes affaires criminelles?
Moi, je ne dirais pas qu'il y a un côté malsain. Il y a un côté... En quoi la réalité est plus forte que l'imaginaire? Les grands faits divers, ces affaires-là, ce sont d'une certaine façon des cauchemars qui se réalisent. Toutes les nuits, nous rêvons. Toutes les nuits, nous sommes dans un autre monde. Et d'un seul coup, cet autre monde, il surgit devant nous. Il est là. C'est une réalité. Ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que lorsque Jean-Claude Roman est apparu au procès, le juge, pourtant je me souvienne, dit « on a vu quelqu'un qui n'avait pas les pieds fourchus et qui n'avait pas les cornes du diable, c'était quelqu'un qui était nous-mêmes. » Et je pense qu'il y a cette dimension-là qui est essentielle. C'est moins du voyeurisme malsain, c'est le fait que ça peut nous arriver, c'est notre voisin. Et alors c'est une autre particularité aussi, c'est que c'est quelque chose qui est une affaire close, c'est-à-dire c'est un roman, un récit, voire un conte, même un conte triste, et on n'a pas besoin de contexte géopolitique pour s'intéresser à ça. C'est donc quelque chose dont on peut parler. On peut parler facilement. Terrasse de bistrot, au comptoir,
oui.
Plus maintenant, plutôt aux terrasses, donc, sur les réseaux sociaux maintenant. Donc ça a quelque chose qui rassemble les personnes, hein,
Pierre Boisson, votre analyse, vous, pourquoi cette fascination certains parlent même d'un syndrome Dexter, du nom du héros de la série Dexter, policier scientifique, dont la vie est tuant la nuit.
Non, mais on le disait tout à l'heure, c'est aussi la vie extraordinaire de gens ordinaires. Et du coup, les faits divers sont toujours des faits sociétaux et sont une grande question démocratique, finalement. On s'intéresse à la vie de tout le monde. Quand on s'intéresse à l'affaire Grégory, on découvre ce que c'est la vallée de la Vologne, on découvre les Vosges. Quand on s'intéresse à l'affaire Ligonnès, on découvre les milieux conservateurs catholiques. On découvre ce qu'a été le rêve de l'Amérique et de la bulle Internet dans les années 2000.
Oui, Jean-Marc Bloch.
Oh, moi, je crois que c'est un peu comme les contes pour enfants. On raconte à nos enfants des trucs épouvantables, des histoires d'ogres, des histoires de grands méchants loups. Et l'enfant, quand il s'endort, se dit « Mais moi, je suis rassuré, je suis chez moi, il ne m'est rien arrivé aujourd'hui. » Eh bien, c'est fait divers, c'est la même chose. C'est des choses qui se passent à côté, chez les mêmes personnes que soi-même. Mais nous, on est à l'abri, ça ne m'est pas arrivé. Et quelque part, ça rassure.
Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué ?
Estelle Mouzin.
Pourquoi ?
Parce que on a travaillé comme des fous furieux pendant 3 mois, en se demandant si elle n'était pas vivante quelque part. Et puis qu'une enfant de 9 ans puisse disparaître dans un pays civilisé comme le nôtre, c'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Ça a été très très dur, et c'est toujours très dur aujourd'hui.
Et quand est-ce que vous avez réalisé qu'elle avait sans doute été tuée ?
Oh, ben on se dit que plus le temps passe, moins les chances de la retrouver ou plus les chances de la retrouver vivante diminuent, bien évidemment. Il n'y a pas un moment où on se dit qu'elle est plus vivante. Mais c'est vrai que l'espoir diminue, ce qui n'empêche pas que les recherches continuent. Mais c'est des affaires qui sont... Alors, quand on est en activité, on le supporte relativement bien parce qu'on travaille, parce qu'on est complètement dans l'affaire. Et puis quand ça s'arrête, on redevient l'empathie, le sentiment reprend le dessus et ça devient difficile. Enfin, c'est plus dur à supporter. C'est ce qu'on appelle un clou dans le cœur.
Il paraît que ça rend fou quand on travaille sur une affaire comme ça. Et qu'on n'arrive pas à en venir à bout, c'est ce qui est raconté dans le dossier Society sur ces deux enquêteurs qui, à un moment, deviennent obsessionnels sur la traque de Xavier Dupont-Ligonnès.
Obsessionnel. Je me souviens qu'à l'époque, je disais aux enquêteurs avec lesquels je travaillais, rentrez, vous reposez, etc. On travaillait par roulement pour justement que tout le monde retrouve un équilibre. Il faut garder un certain équilibre pour travailler sur ce type d'affaires. Sans ça, ça devient obsessionnel. Et quand on est la fatigue, c'est pas bon. Quand on est trop dans le sentiment, c'est pas bon. C'est comme si un médecin pleurait sur son malade. Il va mal le soigner, quelque part. C'est un peu la même chose. Il faut rester objectif et rester technicien, quelque part. Il faut mettre le sentiment derrière. Il faut se mettre une carapace.
Et la pression de l'opinion, on l'évoquait tout à l'heure dans l'affaire Grégory, c'est aussi un poids supplémentaire sur les épaules ?
Non, c'est pas... Non, ça change strictement rien, la pression de l'opinion. Non, c'est le fait en lui-même qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement lourd. L'opinion, même dans cette affaire, on a suscité la presse, on a fait diffuser le portrait d'Estelle Mouzin très rapidement, etc., en se disant que plus l'opinion publique serait au courant, plus on aurait peut-être des remontées de témoignages. Ça ne s'est pas produit. Il y a eu beaucoup de remontées de témoignages, mais fausses, erronées, volontairement ou pas volontairement. Mais on se sert aussi de l'opinion dans certaines affaires pour essayer d'avoir des témoignages.
C'est vrai qu'elle est restée pendant 17 ans le symbole de ces enfants qui parfois disparaissent. Son visage était affiché dans tous les commissariats et les gendarmeries de France et de Navarre. Pierre Boisson, vous souhaitez peut-être réagir à ce qui vient d'être dit, puisque j'évoquais le fait que parfois pour les enquêteurs, une enquête, ça peut monter un peu au cerveau. Vous évoquez donc ces deux enquêteurs dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui commencent à devenir d'une certaine manière obsessionnels par cette traque.
Ils font tout pour se protéger en réalité. Eux disent qu'ils ne sont pas obsédés par l'affaire. En réalité, ils le sont un petit peu, mais pour bien mener leur travail, et ils ont bien fait leur travail, ils se sont protégés justement en ne tombant pas dans les théories, en prenant un fait, on ouvre une piste, on la ferme, de manière très froide, très rationnelle. C'est pas des policiers de Netflix ou c'est pas des policiers de cinéma américain, c'est des policiers froids et professionnels.
Et il y a toujours des enquêteurs qui travaillent aujourd'hui, 10 ans après, à sa traque ?
Toujours, oui. Il y a toujours deux personnes qui
à
sont...
temps plein.
Pas à temps plein, ils ont d'autres dossiers, mais qui suivent le dossier de très près.
Et pardon de vous demander un secret d'instruction, peut-être, mais quelle est leur conviction à eux ? Qu'il est toujours vivant ou pas ?
Dans tous les enquêteurs qui ont travaillé sur le sujet, honnêtement, ils sont partagés 50%, 50%. Même à Nantes, la moitié des policiers pensent qu'il est vivant et l'autre moitié pense qu'il est décédé. Mais il y en a beaucoup qui pensent qu'il est là, quelque part, caché.
Il y aura un troisième volet, Society, Xavier Dupont de Ligonnès 8.
Si on a quelque chose, oui, on enquête, on continue à enquêter. D'accord. Notre affaire n'est pas terminée. Si on a quelque chose à raconter, on sortira un troisième volet, évidemment.
Il y aura l'arrestation.
Il y aura l'arrestation.
On aimerait, c'est l'ambition.
Merci à vous trois, merci à vous infiniment d'avoir été ce soir dans le débat du Club des Idées. On rappelle que chaque jour, l'excellent Christophe Ondelatte raconte aussi ses grandes affaires criminelles et ses faits divers entre 14h et 15h sur l'antenne d'Europe 1.